Le retour en force.
On avait besoin d'au moins 4 gros bras pour revenir à la maison.
Adam Veilleux,
Olivier Turcotte.
Voici le retour en force.
15h36, juste avant de s'entretenir avec notre prochain invité, je vous posais la question sur notre Facebook. Quelle est votre activité de famille préférée pour ce beau week-end qui s'en vient? D'ailleurs, le ministre Dubé nous a demandé de rester en famille proche, oui. Très rapprochée même. Donc, il y a des belles activités à faire en Beauce. Donc, je vous invite à donner vos suggestions sur notre Facebook. On va donner ça à la fin de l'émission. Et que diriez-vous? Bon, une belle journée comme ça, là, ça serait-tu le fun, Olivier, de faire l'école dehors?
C'est le rêve de bien des enfants.
Hein, ça serait le fun, hein? C'est ce qu'a eu comme idée l'enseignant Bruno Gilbert au Cégep Beauce-Appalaches, qui est sur la ligne. Il a eu l'idée de faire un laboratoire en plein air. Monsieur Gilbert, comment allez-vous?
Très bien, merci. Vous aussi?
Oui, très bien, merci. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce qu'un laboratoire en plein air?
Ben, l'objectif de ce premier cours-là de biologie en sciences de la nature, c'est d'explorer, dans le fond, l'infiniment petit dans le domaine du vivant jusqu'à la taille d'un écosystème. Un écosystème, c'est où est-ce qu'il y a un paquet d'organismes vivants qui interagissent entre eux et avec le non-vivant. Donc, on a choisi un endroit qui s'appelle le milieu humide au niveau de l'Association de protection de milieu humide de la Combe-d'Orléans. Alors, on a ici, dans le fond, un milieu qui est très diversifié et donc une biodiversité importante. D'ailleurs, la biodiversité, plus elle est présente, plus le milieu dans lequel on est indique dans le fond qu'il est en santé. Alors, ça permet aux étudiants de, un, s'initier à la biodiversité et deuxièmement, de comprendre ce qu'est la sphère complexe de l'écologie. Hein. Alors, c'est une des raisons principales pour lesquelles on est venu ici. Puis, en fait, c'est pas mal plus intéressant d'apprendre ces choses-là dans le milieu concret plutôt que à travers un bouquin.
Voilà. Et là, c'est quoi l'expérimentation qui se fait en ce moment? C'est de l'inventaire, c'est de l'observation, c'est que font les étudiants en ce moment sur la réserve naturelle de la Cumberland?
Justement, c'est ça qu'ils font. Ils font de l'échantillonnage photographique. Donc, ils prennent des clichés de différents êtres vivants, des différents règnes, que ce soit des animaux, des champignons, des végétaux, voire même des êtres vivants microscopiques, qui vont pouvoir regarder la semaine prochaine au microscope, en laboratoire. Donc, ils prennent un échantillon d'eau qu'on va pouvoir, dans le fond, observer. Fait que là, ils vont avoir 4 règnes d'êtres vivants, à l'intérieur desquels ils vont pouvoir prendre les clichés et après ça, produire leur travail là pour bien comprendre ce que fait cet être vivant-là, dans quel endroit il devrait être habituellement, puis quel est son rôle aussi dans, la circulation, si on veut, du carbone et de l'énergie à travers d'un écosystème. Là. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il sert de nourriture? Est-ce qu'il se nourrit? De quoi il se nourrit? Ses interactions sont avec quels autres êtres vivants? Et, en gros, c'est ça.
Et en quoi la réserve naturelle de la Cumberland est pertinente pour vous et votre groupe? Si je compare, tu sais, ce sont des milieux humides protégés, il y a des zones extrêmement fragiles qui sont protégées de façon assez efficace, si vous voulez mon avis, mais versus la swamp, sa terre à mon oncle Marco, en quoi la réserve naturelle est pertinente pour les efforts puis pour le cours?
J'apprécie énormément, dans le fond, le vocabulaire que vous venez d'utiliser, justement. C'est pour que les jeunes que je croise comprennent que c'est pas un trou de boîte, un marécage, c'est un milieu qui est essentiel, puis en même temps, c'est un milieu qui est protégé par une association, alors c'est plus facile pour nous autres d'y avoir accès, malgré que c'est pas un endroit pour faire des visites, là. C'est un endroit où est-ce qu'il peut avoir l'autorisation pour venir. Mm-hmm. Justement, la plupart des gens naissent, dans le fond, les gens que moi je côtoie, naissent avec un petit carré de gazon en face de la maison. Alors, le fait de venir prendre contact avec un milieu comme ça, ça leur permet de réaliser toute l'importance de ces milieux-là, parce qu'avec les lectures qu'ils vont faire aussi, ils vont être en mesure de comprendre que un milieu humide, on pourrait le comparer un peu à un rein pour la planète, puis on en a besoin, dans le fond, pour permettre là de filtrer l'eau, entre autres, ou de ralentir les mouvements d'eau. Parce que si on bûche toutes les forêts, puis qu'on construit des maisons partout, après ça, il faut pas se demander pourquoi on a des inondations. Là. J'en veux dire, la nature, à travers les millions d'années, a forgé le terrain et se comporte à travers ce milieu-là. à un rythme adéquat pour permettre, dans le fond, différents cours d'eau de fournir quand vient la crue printanière, par exemple. Ce qui est malheureusement pas le cas partout là au Québec quand on abat un paquet de forêts.
Voilà. En quoi justement l'étude que vous faites présentement servirait à sensibiliser les jeunes et la population au milieu humide? Car si vous parlez aux promoteurs immobiliers en moi, là, un milieu humide, puis pour bien des gens dans la population, c'est juste un frein à justement au développement résidentiel pour au développement commercial. Comment ça pourrait sensibiliser les gens dans le futur à respecter ces milieux humides-là?
OK. Première des choses, moi, je suis un prof de biologie au cégep. Là, je suis pas un expert ou un professionnel dans toutes les sphères. Fait que j'espère que je dirai pas trop de balivernes ou en langage plus clair des conneries. Mais en fait, quand on est dans une région de milieu humide, la nappe phréatique est très proche en dessous. Alors, construire une maison dans un milieu comme ça, personnellement, jamais de la vie, je construirais une maison là. Parce que juste avec la montée d'eau dans le sol, un salage, ben, c'est pas imperméable, ce que je sache. Alors, l'eau va tout simplement percoler, ça prend un certain temps, mais elle entre dans la fondation. Fait que c'est vraiment pas un milieu propice pour faire une construction comme ça. Quand, justement, un ingénieur civil serait mieux placé que moi pour parler, justement, à ce niveau-là, là, quand les ingénieurs civils n'ont pas le choix de faire passer une route à travers un secteur comme ça, ils doivent prendre plein de dispositions et s'assurer que leur structure qu'ils vont mettre va rencontrer des normes bien particulières pour être certain que tout ne soit pas à refaire dans 10 ans ou dans 20 ans. Fait que, j'en veux dire, pour moi, la question se pose même pas, parce que ça va contre le fait de vouloir s'établir un endroit puis d'être en toute tranquillité. Là. Puis le milieu humide, comme j'ai dit tantôt en introduction, plus les êtres vivants qui sont là sont diversifiés, c'est signe qu'il y a là un paquet de ressources qui peuvent nourrir un paquet d'êtres vivants différents. Alors, si on enlève une partie du milieu humide, nécessairement, on restreint les accès pour la circulation de nourriture et d'énergie pour ces êtres vivants-là, et donc on va diminuer la biodiversité. Puis, il n'y a pas de magie. Là. À la longue, on a tous besoin de se nourrir quelque part. Ces êtres vivants-là qui se nourrissent d'autres êtres vivants. Puis nous autres aussi, on se nourrit du vivant qui est autour de nous. Là.
Mais l'image que vous avez donnée du rein est loin d'être mauvaise aussi. On parle des reins de la planète, mais on n'a pas encore trouvé de planète compatible pour des greffes si jamais on en manque. Fait que d'où l'importance de maintenir ceux qu'on a. Concrètement, en ce moment, il y a combien d'élèves qui participent là, à ce laboratoire extérieur du côté de Saint-Simon-les-Mines?
Sur la journée d'aujourd'hui et hier, 102 étudiants. Alors, c'est ça donc. Puis l'intérêt aussi de faire ce laboratoire-là, c'est l'année dans laquelle on est en plus. J'ai pas pensé à cause qu'on était en situation de COVID. J'y ai pensé bien avant. Ça faisait déjà quelque temps que j'avais mis en place dans ma tête ce laboratoire-là. Mais en fait, le fait qu'on soit en situation de COVID avec toutes les restrictions de distanciation en venant sur le terrain, dans un kilomètre carré, la distanciation n'est pas un obstacle pour nous. Alors, je sortais tous les étudiants en même temps. Alors que quand je fais des laboratoires la semaine, comme de raison, on respecte les consignes de santé publique. Alors, on doit être à 50% seulement dans les laboratoires. Alors, c'est d'autant plus, je dirais, intéressant parce qu'on peut voir, malgré la distance, tout le monde. Alors, c'est ça. C'est un laboratoire qui rencontre plusieurs objectifs cette année, je dirais. Non?
C'était la première édition de ce laboratoire extérieur à la réserve naturelle de Cumberland?
Non, on a commencé l'an passé.
OK.
En fait. Ouais. Il y a une autre sortie aussi qu'on fait sur le terrain, mais qui est plus pointue, c'est l'observation d'oiseaux. C'est encore là une façon de travailler l'observation chez le scientifique, parce que à la base, il y a deux éléments clés pour évoluer en science. Un, développer sa capacité d'observation, et deux, douter.
Mm-hmm.
Le doute est le burin de la science. Alors, on peut pas parler de croyance en science, hein. C'est pas un dogme. C'est des hypothèses et on vérifie, on contre-vérifie les hypothèses et c'est toujours comme ça. Donc, la science évolue toujours comme ça par essais et erreurs, on pourrait dire. Mais c'est pour ça que quand on peut lire des fois différents commentaires des gens avec la situation actuelle sur la COVID, dès qu'on utilise le mot croyance, on est à côté de la traque. On n'est pas dans la bonne... La bonne façon de regarder les éléments de la science.
Effectivement. Mmh. Très belle initiative. Merci beaucoup, M. Gilbert. Bonne journée.
Merci à vous. Bye-bye. Bonne fin de journée.